Chapitre 27. Zoé allait vomir tellement l'émotion était forte. Ne pas savoir où se trouvait sa fille, alors qu'à l'extérieur c'était le chaos, était insupportable. Elle avait fouillé tout Darwin, sans que personne ne sache où elle était. Pis, nul ne l'avait vue depuis plusieurs heures. Même Marik, lorsqu'il vint les rejoindre, elle et Simon, ne put dire où elle était partie. Elle avait travaillé dans la régie du bureau média, et c'était la dernière fois qu'il l'avait vue. « Je dois y aller !» dit Zoé avec la détermination d'une mère pour sa fille. « On ne peut pas sortir !» répondit Simon. Marik fit signe que c'était pourtant possible. « Je vais faire venir la sécurité. Ils vous accompagneront par les sous-sols jusqu'à Rosalind. Moi, je vais aller à Marie Curie vérifier des fois qu'elle se serait réfugiée avec un ami là-bas. Elle ne répond pas aux messages via le Wi-Fi. « Non !» gémit Zoé. Le vent souffla contre les portes du hall, cherchant à les enfoncer, et tous reculèrent par prudence. Les téléphones internes fonctionnaient encore. L'attaché diplomatique à plat et deux gardes arrivèrent rapidement, dans leurs uniformes kaki. Ils étaient les seuls à être armés à bord, un écusson de l'ONU cousu sur le bras droit et un de leur pays d'origine sur le gauche. Marik donna ses consignes, et ils descendirent au sous-sol de Darwin où ils se séparèrent. Un garde guida Zoé et Simon à travers un labyrinthe de coursives techniques sinistres, se servant de son badge pour franchir les portes sécurisées. En 5 minutes, ils étaient sous Rosalind. Simon saisit Zoé par les épaules. « Il n'y a plus de zone restreinte si tu remontes. Tu crois que tu peux rejoindre le bureau média toute seule? Pourquoi? Où tu veux aller ?» Un ronflement fit trembler les parois pendant 10 secondes. C'était la furie dehors. Simon rentra la tête dans les épaules. « Romy traînait pas mal du côté de Lux 2 ces derniers jours, » dit-il. « Peut-être qu'elle a fait du zèle et est restée plus longtemps que prévu. Il y a une passerelle couverte qui permet d'y accéder. »« Elle peut se décrocher à tout moment, monsieur, » fit le garde. « Je suis prêt à prendre le risque, mais si vous ne venez pas avec moi, je vais avoir besoin de votre badge. » Le garde se raidit en défiant Simon du regard. « Je viens, » conclut-il. Simon déposa un baiser furtif sur la main de Zoé et lui désigna les escaliers, tandis qu'il s'éloignait. « Tu montes et tu check. Si elle n'y est pas, reste et attends mon coup de fil. » Simon et le garde se tenaient à l'entrée de la passerelle qui courait sur 30 mètres pour relier Lux 1 et Lux 2. Elle tressautait et grinçait, tandis qu'un horrible ronronnement tournait autour d'eux. « Vous êtes sûr de vous ?» fit le garde. « J'ai perdu mon fils dans une telle saloperie. Je ne laisserai pas cette fille seule, où qu'elle soit. » Simon s'élança le premier sur le sol métallique. Cette passerelle-ci était fermée, mais quelques gouttes parvenaient à s'infiltrer par le plafond. Elle gigotait plus qu'un manège de fête foraine, et Simon s'arrima à la rampe qui filait tout du long. À mi-chemin, il put sentir les mouvements de la structure. Elle se soulevait et s'abaissait dans la tempête. De combien était donc sa résistance? Son alliage était-il souple? Après tout, les ailes des avions avaient la capacité de se soulever de plusieurs mètres pour absorber les turbulences. Tenta de se rassurer Simon tout en s'efforçant de ne pas tomber. Derrière, le garde était livide. Simon continua d'avancer, attentif au bruit autour d'eux, et il y en avait beaucoup. Il accéléra sur la fin. Une fois de l'autre côté, il reprit sa respiration. « Faudra faire le chemin retour !» rappela le garde, qui masquait mal son ressentiment à l'égard du sociologue qui l'avait entraîné là. « Une chose après l'autre !» Maintenant, il fallait localiser Romy si elle était dans ce secteur. « On procède par étages, » dit-il. « Venez !» Lux 2 avait été mise en alerte et évacuée. Il n'y avait plus personne. Seules les veilleuses des accès et des zones de déambulation étaient allumées. Le reste demeurait plongé dans le noir. Simon et son garde marchaient à toute vitesse, criant le nom de la jeune femme, sillonnant couloir après couloir, le garde éclairant par les vitres l'intérieur des laboratoires qu'ils croisaient. Mais ils ne détectaient aucune présence. Pendant plus de 3 heures, ils sondèrent les bâtiments les uns après les autres, au pas de course, s'époumonant pour appeler Romy à travers le bruit de fond qui grondait contre les murs. Simon perdait espoir qu'elle soit ici. Il avait appelé Zoé au bureau média, qui n'avait pas eu plus de résultats. « Je vais inspecter Rosalind, » annonça-t-elle. « Sois prudente, on continue ici. Zoé, on va la retrouver. » Simon fonçait à travers les installations en se demandant pourquoi il s'était senti obligé de faire cette promesse. N'était-il pas bien placé pour savoir que l'homme n'avait aucun pouvoir face à la nature ? Celui-ci l'avait cru. Il avait pensé la dompter. C'était envisagé supérieur, intouchable, avec son industrialisation, avec ses machines, sa science. Mais à quoi est-ce que tout ça lui servait à présent que le monde était aux abois, que la terre tremblait partout, que son souffle rageur ravageait ses villes, que les tsunamis noyaient ses côtes ? Simon, plus que quiconque, savait qu'il ne fallait pas se montrer prétentieux face à la nature. Pierre l'avait été, et il en était mort. Ils parvinrent au dernier étage du bâtiment Jonas Salk. C'était un lieu particulier pour Simon, et il n'arrêtait pas d'y penser depuis qu'il l'explorait. D'abord parce que lui-même était un grand admirateur de Jonas Salk, mais qui connaissait encore son nom ? Les gamins du monde entier savaient qui était Elon Musk ou Mark Zuckerberg. On dressait des statues de footballeurs ou de chanteurs, mais y en avait-il ne serait-ce qu'une seule de Jonas Salk dans chaque pays ? Salk était l'inventeur du vaccin contre la poliomyélite, cette maladie infectieuse parmi les plus meurtrières qui ravagea l'humanité pendant la première moitié du XXe siècle notamment et toucha principalement les enfants. Salk inventa le vaccin, mais surtout décida de ne pas le breveter pour le laisser accessible à tous et ainsi sauver un maximum de vies. Le vaccin aurait pu lui rapporter 7 milliards de dollars. Il les refusa et répondit « Le brevet appartient au peuple. Pourrait-on breveter le soleil ?» Pour Simon, il n'y avait pas meilleur héros à ériger en exemple. Jonas Salk était pourtant un nom quasi anonyme. Aujourd'hui, on glorifiait les milliardaires. Ce monde devenait fou. La seconde raison pour laquelle ce bâtiment ne lui était pas inconnu, c'était qu'il avait entendu Matteo et Marik le mentionner à plusieurs reprises, toujours discrètement. Plus étonnant encore, récemment, en entrant dans le bureau de Matteo, Simon l'avait surpris en train de cacher un dossier. Le sociologue n'avait pas pu lire le nom écrit dessus, mais il avait eu le temps de voir la grosse étiquette. Jonas Salk, Lapsis, Dies 33. Et il lui avait semblé apercevoir un bandeau rouge de type confidentiel, sans en être totalement sûr. Ces deux-là cachaient quelque chose. Ce n'était pas de son ressort, et Simon n'avait pas cherché à en savoir davantage. Mais en passant devant le laboratoire 6, son ventre se serra. L'occasion était trop belle. Simon se frotta les mains nerveusement, puis il interpella le garde devant. « Romy venait à cet étage ces derniers jours. Les labos sont grands. Elle ne nous entendra pas si on l'appelle, surtout avec le sas. Je voudrais aller jeter un coup d'œil. » Le garde hésita. Mais il n'avait aucune raison de se méfier. Après tout, Marik, en personne, lui avait ordonné de leur ouvrir toutes les portes. Il badgea, et le sas s'ouvrit. « Gagnons du temps, je fais celui-ci. Faites l'autre en face. » Là encore, le garde prit une seconde pour réfléchir et acquiesça avant de filer. Simon était à l'intérieur et seul. Romy ! Romy ! Il ne croyait pas une seconde qu'elle se trouvait ici. À vrai dire, il commença à se convaincre qu'elle n'était pas sur Lux 2. Leur expédition n'avait servi à rien, mais il voulait donner le change.
Peut-être pas si inutile que ça,
se dit-il en approchant des ordinateurs qui étaient envahis. À quoi servait le Labo 6 au juste ? Il y avait principalement du matériel informatique et quelques appareils technologiques dont il était incapable d'estimer la fonction. Son impression était qu'on y étudiait des données collectées ailleurs. Simon vérifia d'un regard vers la baie vitrée que le garde n'était pas de retour dans le couloir et tapota sur un des claviers qui réveilla l'ordinateur. Aucun mot de passe demandé. La sécurité ici, c'était le sas. Ils étaient plusieurs à se partager les ordinateurs, et ils n'avaient aucune raison de les protéger entre eux. Perte de temps. Simon examina brièvement le bureau numérique. Des dossiers avec des noms compliqués un peu partout. Il ouvrit la fenêtre de recherche et tapa « Dies 33 ». Le dossier 33 apparut sous ses yeux. Le couloir était toujours vide. Il double-cliqua sur l'icône, qui lui donna le choix entre une demi-douzaine de documents.
Merde, qu'est-ce que c'est que ces machins ?
Il repéra un doc Word, ça il connaissait, et le lança. Personne dans le couloir. Simon prenait des risques. Et pourquoi ? Des messes basses entre politiciens ? Et une pochette douteuse rangée à la hâte ? Le Word faisait 10 pages, qu'il fit défiler juste pour en avoir un aperçu. Cela concernait Sphère. Des chiffres, des lettres, des diagrammes, des ondes. Rien dont il ait entendu parler jusqu'à présent. Et c'était déjà une information intéressante. Pourquoi est-ce qu'une équipe conservait des données pour elle? Il voulait lire dans le détail, mais n'en avait pas le temps. Pas maintenant. Il cliqua aussitôt sur « Imprimer ». La lampe du garde réapparut en face, près de la sortie du labo opposé.
« Vite, mène-toi !»
Les feuilles sortaient de l'imprimante. Il attrapa la dernière et les enfourna toutes chaudes sous sa chemise au moment où le garde se penchait contre la baie vitrée pour voir ce qu'il fabriquait. Simon fit signe qu'il n'avait rien trouvé. Mais il n'en était pas si sûr.